Achetons.
Donc bonjour, je suis Élodie Blier, vice-procureure au parquet de Libourne. Je suis actuellement dans ma 16e année d'exercice et 16e année de permanence pénale. Donc 16 ans d'aiguillage du ciel, de garde-triage, de je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est vrai que je travaille essentiellement dans l'urgence, sauf si je vais sur des audiences correctionnelles où j'ai le temps de voir les dossiers. Mais c'est vrai que le travail d'un parquetier est un travail de vitesse, effectivement. Et je pense que la temporalité dans les propos qu'on tient depuis ce matin est extrêmement importante. Alors, quand on m'a proposé d'être rapporteur, synthétiseuse de cette journée, j'ai lu le sujet. J'ai dit, bon, très bien. J'avais une idée assez vague de ce qui allait se passer aujourd'hui. Ce matin, je me suis dit, oula, que tout ça est compliqué. J'avais pas conscience, en fait, de la complexité de ces notions et de tout ce que ces questions soulevaient en termes de pratique et de tout ce que vous viviez au quotidien et tous les questionnements que vous étiez amenés à vous poser. Parce que moi, pour être tout à fait claire, effectivement, ce que j'attends, c'est un chiffre. Non pas parce que je suis bête et méchante, mais tout simplement parce que, d'abord, c'est la loi qui me le demande. Mon travail en tant que parquetier, c'est dans un premier lieu de qualifier les faits qui me sont présentés. J'ai un code pénal, il faut que je fasse rentrer les faits dans les cases du code pénal. La loi pénale est d'interprétation stricte, ça veut dire que chaque terme doit être interprété strictement et les comportements doivent être qualifiés pénalement pour pouvoir être poursuivis devant une juridiction pénale. Et la loi est faite de telle façon que pour qualifier les infractions de violence, pour savoir quelle juridiction saisir, pour évaluer quelle est l'infraction qui doit être choisie pour qualifier le comportement, ben c'est l'ITT, cette fameuse ITT, qui reste la seule et unique échelle de mesure. Alors effectivement, la loi ne nous lie pas à cette ITT, hein, effectivement, hein. Il n'empêche que si je ne prends pas en compte ça, qu'est-ce que je prends en compte? Et ça, je pense que ce sera une des grandes questions quand on parle de la suppression de l'ITT dont tout le monde rêve, visiblement ici. Je dirais oui, mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc la qualification de l'infraction est au cœur de mon métier. Et il faut bien avoir conscience, et je pense que ça fait aussi partie parfois des incompréhensions entre nous. Donc entre nous, magistrats du parquet et OPJ, hein, parce qu'il y a une espèce d'assimilation tout à fait justifiée, c'est que nous, on est soumis à des délais. On est soumis à des délais, les délais de garde à vue, c'est 48 heures. On est soumis aussi à des, comment je pourrais qualifier ça, à des attentes, hein, de la société de traitement rapide des procédures, surtout dans des matières sensibles comme les violences sur mineurs, les violences conjugales, où on attend de nous une protection accrue des victimes. Alors ça peut paraître complètement paradoxal, parce qu'on nous demande de protéger vite les victimes en écartant l'auteur de manière judiciaire. Moi, la seule chose que je connais dans ces cas-là, c'est la comparution immédiate, hein, et éventuellement les réquisitions de mandat de dépôt. Mais le paradoxe, c'est que effectivement le retentissement psychologique n'a pas le temps d'être effectué. Et ça, c'est un réel hiatus, je dirais, en termes de temporalité. Et je pense qu'on en a parlé quand même une bonne partie de la journée. Et ça, c'est une réelle réflexion à avoir. Et je pense qu'on peut être sauvé. Moi, j'ai la chance d'être dans un ressort petit où tout le monde se connaît. Et effectivement, on a des relations très privilégiées avec l'UMJ, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Alors pas parce que les personnalités s'opposent, mais tout simplement en termes de masse. Si mon médecin légiste a une question sur une réquisition un peu farfelue qu'elle reçoit, parce que tout simplement l'officier de police judiciaire a pu prendre la mauvaise trame, hein, parce que C'est aussi simple que ça. Hein. Parfois, les réquisitions qui ont été lues tout à l'heure, c'était tout simplement une mission d'expertise et non pas une réquisition. Donc parfois, c'est aussi simple que ça. Bah, un coup de fil au parquet et le tour est joué. Maintenant, ce n'est pas possible, j'en ai bien conscience, dans tous les ressorts. Ce n'est pas possible au quotidien. J'imagine qu'à Paris, c'est juste impossible de faire comme ça. Mais je pense que effectivement des tentatives d'harmonisation et non pas de standardisation, ça aussi c'est quelque chose de très important qui a été dit, pour tenter que vous soyez saisis toujours de la même chose, des mêmes questions, avoir des réquisitions harmonisées, ça fait partie des choses que vous pouvez tout à fait solliciter de la part de l'autorité judiciaire primo-intervenante qui est le procureur de la République. Parce que c'est effectivement ce qui permet une évaluation de ce retentissement psychologique qui est le même pour toutes les victimes qui n'ont évidemment pas subi toutes la même chose et qui n'ont évidemment pas vécu toutes les mêmes choses. Et je pense aussi que les liens entre l'UMJ et le parquet, des liens étroits et pas forcément quotidiens, peuvent permettre de résoudre beaucoup de questions. Et je vous entendais, Madame de Toulon, indiquer tout à l'heure que vous aviez des questions vis-à-vis des mineurs, de l'évaluation des mineurs, et qu'en fonction des OPJ, c'était compliqué. Mais dans ce cas-là, c'est le parquet qui doit être votre interlocuteur, parce que le parquet est à même de donner des instructions générales en ce qui concerne les réquisitions qui doivent être lancées, parce que effectivement il faut bien avoir conscience que sur un ressort le nombre d'OPJ est très important et que ça tourne tout le temps. Donc, on peut donner des instructions. Après, il faut que ça passe. Il faut que le petit jeune qui arrive en ait connaissance. Enfin, c'est quand même très compliqué que tout le monde soit informé tout le temps des mêmes choses. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à alerter le procureur de la République des difficultés sur un ressort. Ce qui est aussi ressorti, à mon sens, et c'est vrai que je me moquais un peu de moi-même ce matin, parce que pour moi, une UTT psychologique, avant de venir ici, il n'y avait aucun problème. En fait, je me suis rendu compte que si. c'est une notion qui est très décriée, voire absurde pour certains. J'ai bien compris que maintenant, une ITT, c'est un ensemble et qu'il peut y avoir à l'intérieur, vous savez, les cases, hein, c'est très important pour moi, à l'intérieur d'une même ITT, la prise en compte d'une ITT somatique et psychologique. Et encore une fois, sur la temporalité, j'entends ce qui se fait à l'Hôtel Dieu, mais c'est nécessairement impossible dans les procédures qui sont réglées en 48 heures. Voilà, encore une fois, c'est un choix qui est sociétal, et pas seulement du magistrat qui est au téléphone, hein, le magistrat respecte la loi, et le procureur de la République donne des instructions qui répondent à une attente de la société, et l'évolution de la société, encore une fois, va vers un traitement en temps réel des procédures, un traitement de plus en plus rapide, des réponses pénales qui sont sans cesse plus accélérées. Et effectivement, malheureusement, le sentiment peut être de laisser les victimes sur le bord de la route. Je pense que ce n'est qu'un sentiment, puisque ce n'est pas parce qu'un mis en cause est jugé en comparution immédiate que le chemin de la victime, notamment sur la voie de l'indemnisation, parce que c'est ça, au final, ce que la justice doit apporter à la victime, au-delà de ce statut, hein, qui est extrêmement important, c'est l'indemnisation intégrale de son préjudice. Et ça, bien évidemment, c'est pas l'évaluation du retentissement psychologique qui a lieu en premier lieu qui remplit cet objectif. C'est les expertises qui vont être ordonnées par le tribunal correctionnel, éventuellement par la CIVI, éventuellement par la cour d'assises, qui vont permettre d'évaluer dans un temps plus long, à des temporalités différentes, le retentissement psychologique sur différents postes, et qui permettront au final l'indemnisation la plus juste pour la victime. Alors j'entends, hein, également, j'ai entendu entendu ce qui a été dit par mesdames les avocates, et je comprends très bien leurs arguments. Mais là encore, c'est une question de place de chacun. Et j'en reviens encore à dire, ce sera peut-être une perspective à ouvrir, la loi, ce n'est pas les magistrats qui la font, les magistrats l'appliquent. Et que, oui, la CIVI ne peut pas être saisie s'il n'y a pas d'ITT, il faut plutôt interpeller les députés pour dire ça pose problème. Tout comme, effectivement, un enfant de plus de 15 ans qui est victime de ses parents, ça reste une contravention. Moi aussi, je trouve ça parfois totalement aberrant dans certaines situations qui font qu'effectivement, il y a une prescription courte. 8 jours d'ITT, parfois, c'est très important et malgré tout, on va devant le tribunal de police. Moi non plus, ça ne me va pas. Mais malgré ça, voilà, c'est plutôt au législateur de faire évoluer ce point-là, s'il est possible de l'alerter, parce que des vides juridiques, ça existe tout à fait. Et c'est tout à fait possible de faire évoluer la loi. On voit d'ailleurs qu'en ce moment, la loi évolue de manière très favorable pour les victimes et pour la prise en compte de leur retentissement, y compris pour les mineurs, puisque la présence d'un mineur est maintenant une circonstance aggravante en cas de violence conjugale. Et je pense qu'on y viendra. C'est un long chemin. On part de loin. Il faut quand même s'en rendre compte, on viendra effectivement que le parent violent sera poursuivi pour des violences sur son enfant, même si celui-ci n'a pas été victime directe des violences. On va y venir. Il faut laisser le temps au temps. Déjà, l'évolution jusqu'à maintenant est extrêmement, extrêmement positive. Donc, pour résumer, en gros, la question de la temporalité, mes collègues des assises estimaient que parfois le temps était évidemment long, mais moi, ma problématique, c'est plutôt un temps trop court. Donc, quel est le juste temps pour une victime? C'est toute la question, mais encore une fois, on a quand même un arsenal juridique qui permet d'offrir une juste réparation, je le pense et je l'espère. Et en tout cas, la question de l'évaluation du retentissement psychologique qui a été abordé aujourd'hui, permet de voir qu'il y a des évolutions possibles, que beaucoup de choses peuvent être mises en place, notamment au niveau local, pour essayer d'harmoniser les pratiques pour qu'il n'y ait plus de difficultés et que toutes les victimes puissent être prises en charge de manière égalitaire, entre guillemets. Et en tout cas, je pense qu'il peut rester beaucoup de travail en la matière.
C'est même une certitude. Merci beaucoup, Madame Blier, pour cette synthèse. Allez, il me reste 10 minutes et je ne vais pas les dépasser. Comme ça, on respecte le cadre. Vous savez, le cadre si cher aux psychologues.
Et aux magistrats.
On se retrouve là-dessus. Donc déjà, vous remerciez. Vous remerciez parce que, à titre personnel, j'ai passé une excellente journée. Remercier les intervenants, mais vous remercier aussi dans la salle pour la richesse des débats. Je trouve que cette journée a rempli les enjeux qu'elle s'était fixée, de manière absolument pas prétentieuse, mais en tout cas d'ouvrir, de questionner, d'échanger, et j'espère de poser des bases à un travail effectivement plus en longueur. On vient de loin, effectivement. Je trouve que aussi l'enjeu de nos échanges montre une excellente nouvelle, c'est la prise en compte de la part psychologique dans le cadre de l'enquête pénale, en tout cas effectivement de ne pas saucissonner trop les gens, même si on entend qu'on peut arriver à ça aussi paradoxalement. Donc on voit effectivement cette bonne nouvelle là. Fin de journée, moi j'ai l'impression d'être face à une montagne, alors qu'il ne serait pas l'Everest, mais une bonne montagne quand même.
Le Mont Blanc.
Le Mont Blanc, ouais, ça me fait un peu peur quand même. Mais surtout peut-être, c'est que j'ai pas l'impression d'être toute seule. Et je trouve que c'est ça aussi, en tout cas, alors je ne sais pas, c'est un ressenti très personnel, bien évidemment, que je vous confie là. J'ai l'impression qu'on peut être aussi tous ensemble à discuter de ces questions-là et d'essayer de gravir ce Mont Blanc et d'avoir un succès dans cette ascension. Par la question des enfants, quand même vous dire, parce qu'on ne l'a pas précisé effectivement en introduction, vous l'avez vu, dans le comité scientifique, nous avons la Société française de pédiatrie médico-légale. Donc nous avons nos collègues pédiatres légistes. Alors, en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est leur congrès de pédiatrie. Donc, quand Martine Balançon, la présidente, m'a dit « Mais t'as vu la date ?» Je dis « Oui. » Bon. Et en même temps, on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à aborder aujourd'hui, pour pas forcément non plus... Parce que la spécificité des enfants est une vraie spécificité, donc se dire peut-être que ce serait là le travail plus en longueur et qu'il faudrait de toute façon un chantier à ce niveau-là. Donc là, d'ouvrir, et effectivement, il y a peu de pédiatres dans la salle parce qu'en fait, ils sont tous à Marseille. Donc ça, c'était effectivement l'information qu'on avait oublié de donner. Cette journée, elle a bien montré la nécessité de se concerter en pluridisciplinarité. Je crois que ça, on l'a bien compris. Effectivement, la question de se parler, de se connaître, savoir qui fait quoi. Ça aussi, c'est des paroles qui ont pu être prononcées. Le débat, il est ouvert, mais l'objectif, c'est maintenant d'en s'en emparer, de savoir ce qu'on va y faire. Et donc de pouvoir voir aussi comment ce couple santé-justice avance ensemble. Ça peut être sympa, quand même, comme aventure. Moi, je retiens principalement peut-être trois éléments. Alors, de parler d'évaluation du retentissement psychologique, ben, en fait, c'est complètement indissociable de l'ITT. Donc, ça pose une vraie question, quand même. Qu'on n'a peut-être pas trop parlé des victimes qu'on pourrait peut-être qualifier de plaignants au stade où on en est de l'enquête. Un petit peu plus cet après-midi, mais c'est aussi, finalement, quelle place on leur donne, même si on a bien compris que l'enjeu, effectivement, n'est pas... de prime abord, en tout cas, de ne pas répondre à une attente des victimes, mais effectivement, comment on leur laisse cette place-là. Et surtout, dans ce qui avait été dit, je crois, plus tôt ce matin, c'est comment aussi on évite le morcellement dans lequel les ont plongé les violences qu'elles ont subies, et que nous, et je crois que c'était Annabelle, hein, qui disait bien ça ce matin, ce saucissonnage, une tête par-ci, une vulve par-là et un corps de l'autre. Donc, c'est aussi comment nous-mêmes, nous pourrions éviter cette répétition aussi de morcellement. Donc, qui doit réfléchir sur quoi? Que voudrait-on voir évoluer? Alors, effectivement, on entend bien, je pense que de toute façon, la question législative va se poser à un moment donné, donc il va falloir inviter des députés. On a bien compris les enjeux autour du retentissement psychologique, la temporalité. Alors, peut parler quand même de la crédibilité. On l'a un petit peu évoqué. Alors, est-ce que c'était trop épineux pour aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est un gros mot. C'est peut-être un gros mot, mais ça se pose dans nos pratiques, puisqu'on le voit encore. Annabelle, je crois que tu l'as bien aussi souligné. On a bien compris, effectivement, voilà, le devenir dans les procédures courtes, dans les procédures longues, jusqu'à la civile. Enfin, et moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses, parce que je ne pensais pas que ce compte-rendu pouvait aller si loin. Donc c'est aussi ça, les enjeux. Mais alors même que ce n'est pas sa fonction première. Bon, je fais très court. Parler de la suite, donc on a partagé un constat aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Parce que là, on a fixé des choses. Ce n'est pas que ça s'évapore, ce n'est pas que ça fasse plouf, ce n'est pas que ça... Enfin, ça ne servira à pas grand-chose. On se sera vu, ça aura été sympa, mais bon... L'objectif, c'est quand même d'aller plus loin, trouver ce langage commun, peut-être. Alors, il y a la manifestation de la vérité, il y a le respect de l'intérêt des victimes, comme M. Lacombe le disait. Remettre du cadre, à quoi sert, dans le texte, effectivement, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que c'est censé faire, et comment on peut y répondre. Je repense à notre collègue, je ne sais pas si elle est à nouveau là, Malika, qui disait, finalement, on peut dire non. Alors là, effectivement, ça...
Non, mais je comprends très bien.
On peut dire non. Donc, est-ce qu'il faut qu'on s'autorise finalement à être dans le non, nous, psychologues, peut-être nos collègues médecins légistes aussi, je ne sais pas. Enfin, c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit être dans le non pour que, justement, bah, on ne soit pas, comme tu disais, Célia, dans ce par défaut, parce que c'est la réalité de toute façon actuelle. Ce travail autour d'un référentiel, est-ce que c'est effectivement le chantier aussi qu'on doit se donner? Donc c'est vrai que moi j'ai envie de me retourner vers vous, c'est quelle méthodologie de travail on trouve. On parle de conférences de consensus, est-ce que c'est le bon format? En tout cas, il faut ouvrir des chantiers, alors j'aime pas non plus trop le mot groupe de travail parce qu'on en voit éclore partout. L'idée c'est pas de faire des groupes de travail pour faire des groupes de travail, c'est de faire des groupes de travail pour qu'effectivement on bosse et on se donne une temporalité peut-être aussi, alors qu'il va certainement être plus long qu'une journée. Mais où vraiment on puisse aboutir à quelque chose qui pourrait être des recommandations de bonnes pratiques, qui parle à tout le monde, un référentiel, mais qui parle à tout le monde. Alors, Véronique Béchu le disait bien, ils sont au travail aussi concernant, eux, les fiches réflexes, là, sur les réquisitions, super intéressant, il va falloir qu'on bosse aussi avec eux. Donc je passe aussi un appel à candidature. Clairement, ceux qui sont intéressés de travailler, de continuer de travailler, vous nous envoyez des messages. Il faut qu'on, voilà, faut qu'on continue avec, bien évidemment, toutes les entités, toutes les instances, toutes les sociétés. Voilà, donc c'est une ouverture. Vous dire qu'on pense bien évidemment à poser les actes de ce colloque-là. Il y a un enregistrement audio qui est fait. Il faut qu'on mette aussi sur papier tout ça pour que ça serve un peu comme notre évaluation de retentissement psychologique ou retentissement tout court dans le cadre de la procédure pénale S. C'est-à-dire que là, on a fait une photographie à un instant T et il faut que ce soit dynamique. En tout cas, je l'espère. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère vous retrouver très bientôt pour continuer ces échanges. Merci beaucoup. Eh bien, oui, Madame Miot. Non, j'ai une question tout de suite avant que vous preniez la parole. Vous nous suivez ou pas ?
Alors justement, c'est pour ça que je n'avais pas prévu donc de reprendre la parole, mais je ne peux pas m'en empêcher suite à... Et après, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc si l'École nationale de la magistrature ne faisait rien, ça serait quand même vraiment un drame. Donc il vous faut savoir, donc, pour information, que dans chaque cour d'appel, il y a un magistrat délégué à la formation. Donc c'est-à-dire que l'école a prévu que sur chacun des ressorts, il y ait donc un magistrat qui soit chargé de mettre en place des formations pour travailler sur la communauté de travail, justement. Donc ici, sur Bordeaux, donc avec l'UMJ, enfin avec le COVA, moi je suis magistrat délégué à la formation, donc sur la cour d'appel de Bordeaux. Ce que j'ai proposé, dans le cadre effectivement des budgets dont je dispose, c'est des rencontres au COVA pour les magistrats, où donc ils ont été, voilà, donc des groupes, c'est sur inscription, c'est-à-dire c'est un stage tout simple, hein, mais ça peut être aussi ouvert à une multiple... C'est à voir, en fait, c'est à vous à réfléchir comment vous voulez mettre en place cette communauté de travail. Mais vous pouvez donc vous adresser au magistrat délégué à la formation donc, de la cour d'appel, pour lui dire, voilà, est-ce qu'on pourrait mettre en place un groupe où on voudrait une journée de discussion interprofessionnelle, donc UMJ, sur ben justement retentissement psychologique, qu'est-ce qu'on en fait, ces notions qui évoluent, etc. Ou ce qu'on a là, un groupe vient effectivement de rencontrer l'UMJ, enfin le COVA à Bordeaux. L'objectif derrière, c'est que des magistrats aillent, éventuellement un ou deux, assister à une expertise, donc voir de l'intérieur comment ça se passe, comment vous le structurez, comment vous y arrivez, pour justement, effectivement, mieux se connaître et être au plus près donc des besoins. Donc ce que je peux faire, c'est transmettre la liste des magistrats délégués à la formation sur vos ressorts, et à charge pour vous de venir vers eux pour dire, eh bien voilà, nous avons assisté à un colloque donc à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Nous avons appris qu'il y avait donc un référent et on voudrait effectivement mettre en place, faire des choses. Et donc on peut effectivement, avec les moyens dont on dispose, je pense, vous aider à répondre ou en tout cas à réfléchir sur toutes ces questions. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc on revient vers vous et vous revenez vers nous. On fait comme ça. Rentrez bien, profitez bien de Bordeaux. Pour nos collègues psychologues, à demain.